sacre du grand Saint-Barthélemy tous les derniers jeudis du mois, aujourd'hui le 24, au sein du comité Mamega, réalisé et produit par le comité Mamega et Radio Galère. Juste avant de passer la parole à Jean-Marc Ega, l'animateur principal qui nous donnera la thématique, je vous invite d'aller sur le site du vivreensemble.org, www.vivreensemble.org. Jean-Marc, je te passe la parole.
Oui, merci Farid. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. Donc comme le disait Farid, ce sont les échos du Grand Saint-Barthélemy avec vous sur les ondes de Radio Galère 88.4 de la bande FM et sur le canal 8C de la RNT en DAB+. N'oublions pas aussi le site de Radio Galère qui est le suivant, www.radiogalère.org. Pour cette émission de rentrée, puisque nous sommes au mois de septembre, nous avons convié un tout 6 invités, mais compte tenu du coronavirus, nous avons prévu de départir en 2 groupes. Une première partie, bien sûr, avec l'association Sheba, qui était déjà venue, comme vous le savez, au cours d'une émission précédente. Nous avons prévu qu'il puisse y avoir aussi Régie Service. Sheba, c'est la directrice Leila Higa. Régie Service, la chef du pôle médiation Gersonde du Solcy, ainsi que l'ADAP avec Hicham Kabash qui aura un peu de retard pour nous rejoindre. Donc après, il y aura comme autre invité la coordinatrice d'Adélis Safia Lagro, la présidente de la PE Inès, ainsi que Yazid Atala, surtout en ce temps de Covid, qu'il est extrêmement important que nous puissions parler un peu de cette problématique qui est apparemment galopante dans notre cité, la cité phocéenne. En dernière partie, bien sûr, il y aura le communiqué. Je vous propose de faire une première pause musicale avec une chanteuse libanaise, Firouz. C'est une façon d'exprimer notre solidarité, la solidarité de nos quartiers avec le peuple libanais. Merci Sidi et nous remercions Sidi d'être toujours là, fidèle et pour nous accompagner dans ces émissions.
Les Beyrouth, min qalbi salamun les Beyrouth, wa qubalun lil bahri.
هي من روح الشعب خمر هي
les échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4. Donc nous sommes avec deux invités, notamment une que, dont je viens juste de faire la connaissance, la personne de Gersand de Solcy, qui est la chef de projet du pôle médiation de Régie 13, Régie Service 13. Alors, une présentation de la structure. Merci d'être là déjà. C'est la première chose, une présentation de la structure Régie Service.
Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là. Je vous avoue que je faisais la belle auprès de mes collaborateurs en disant que je vais faire une émission radio, etc. C'est ma première et je vous avoue que je suis quand même stressée. J'ai les chocottes, j'avoue. Donc la Régie Service 13, eh bien, c'est une association qui a un peu plus de 30 ans maintenant, qui a été créée à l'époque à côté de là où on est, au secteur des Flamands, par des habitants des Flamands. On a une activité principale qui à l'origine est tournée vers le nettoyage. On a des activités d'insertion par l'activité économique avec des axes autour du ramassage des encombrants, du nettoyage des parties communes, du remplacement des gardiens. Un gros axe aussi tourné autour du débroussaillage et de l'espace vert. Et on a aussi le pôle médiation que je représente aujourd'hui. C'est une activité que la régie mène depuis un peu plus de 20 ans sur le patrimoine de Marseille en direction des bailleurs sociaux. Voilà, donc pour le territoire qui nous concerne aujourd'hui et pour le dispositif de médiation sociale urbaine, on est sur 6 territoires d'intervention sur Marseille, sur les QPV, et on a 2 médiateurs qui interviennent pour le territoire proche sur le Mail.
Merci pour toutes ces informations. Nous allons poursuivre avec Leïla Ega, directrice de l'association Sheba. Est-ce que l'on devrait présenter l'association Sheba ?
Bon, mais merci de nous avoir invités encore une fois. Présenter Sheba, je ne sais pas si c'est nécessaire sur le territoire, mais pour nos auditeurs, certainement. Donc, l'association Sheba, c'est une association de femmes créée en 1986. Et donc, plus de 34 ans d'existence maintenant. Elle œuvre pour l'insertion, la formation et la promotion de la femme. Et ces derniers temps, on développe pas mal de projets autour du numérique. Voilà.
Merci pour cette information, ces précisions concernant Sheba et ce qu'ils ont fait. Je vois qu'il n'y a que des associations qui sont quasiment parmi les plus anciennes ici présentement. Effectivement, la régie, je me souviens des Flamands Iris à l'époque, projet d'insertion et autres. Donc, nous allons venir au sujet qui nous importe, qui est le Grand Saint-Barthélemy. Grand Saint-Barthélemy qui s'est mobilisé pour le mois de juillet-août. Alors la première question, c'est est-ce que vous pouvez rappeler la genèse de cette mobilisation ? Parce que cette mobilisation a concerné quasiment l'ensemble des partenaires, tant associatifs qu'équipements sociaux, qui sont arrivés à se mobiliser et à travailler ensemble, à mutualiser des moyens, ainsi tant humains que matériels. Alors, qui peut rappeler un peu la genèse de ce projet, de cette mobilisation ?
Bon, ben, je vais prendre la parole. Alors, le territoire s'est pas mal mobilisé déjà pendant la période de confinement pour essayer de faciliter les sorties des habitants, leur fournir des denrées, les accompagner sur toutes les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien. Et on a décidé de continuer à mutualiser nos moyens pour répondre aux besoins des habitants et leur proposer des activités plus ou moins ludiques pour leur permettre d'oublier justement cette période de confinement. Est-ce qu'on y a réussi ? On y est parvenu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu pas mal de moments de convivialité tout au long de l'été et je pense que c'est une très bonne chose.
Alors, pour la régie, donc vous avez participé à ce mouvement de mobilisation. Alors, une question qui est la suivante, à savoir, qu'est-ce qui a poussé et quelle est l'hypothèse de départ qui a poussé à cette obligation d'harmoniser et de travailler ensemble ? L'hypothèse, c'était qu'il y avait le Covid, cette pandémie. À partir de moment, me semble-t-il, ce qui avait été dit, c'est qu'il y aurait un bon nombre d'habitants qui ne quitteraient pas le domicile, qui ne quitteraient pas le quartier. Donc, voir un peu comment faire pour se mobiliser, comment pouvoir faire pour les accompagner. Qui c'est qui peut rappeler cet épisode ? Et il me semble que c'est ce qui a été le moteur aussi de cette mobilisation.
Je te prie de continuer, Jean-Marc.
Oui.
Il y a aussi aussi le fait que il y a eu pas mal d'activités avec EZEF en partenariat avec nous, le collectif du Grand Saint-Barthélemy, avec l'ensemble des partenaires. Et il faut soulever aussi que Régis Service a participé, en sachant que les frontières étaient fermées, notamment les frontières d'origine maghrébine, notamment l'Algérie, et les gens n'ont pas pu partir en vacances. Est-ce que Régis Service, comment vous avez participé avec ce projet-là au mois de juillet?
Alors déjà, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que le travail de concert qui s'est mené cet été sur le Grand Saint-Barthélemy, c'est la continuité d'un travail de concert qui se fait tout au long de l'année et depuis des années. C'est un territoire sur lequel les structures de proximité, les acteurs ressources ont l'habitude de travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui s'est bien entendu développé, qui a pris une plus forte puissance avec l'actualité du Covid cet été. Les médiateurs qui sont présents en pied d'immeuble, qui sont en contact avec les habitants, ont eu un rôle très important de relais d'informations auprès du public sur ce qui allait se dérouler tout au long de l'été, avec une programmation et une information de ce qui allait se faire auprès du public.
Oui,
effectivement, il y a une communication commune qui a été réalisée toutes les semaines pour informer les habitants et mobiliser les acteurs à certains moments sur des points stratégiques pour pouvoir encadrer et accompagner les habitants au mieux. On s'était rendu compte que les habitants avaient un petit peu délaissé l'espace public. C'était un petit peu logique, nous étions confinés. Mais après le confinement, c'est comme si les gens étaient encore confinés. Ils n'osaient plus sortir. Et donc, on a essayé de provoquer et faire en sorte que les habitants se réapproprient l'espace public en mettant en place cette programmation commune et ces événements en l'extérieur, notamment.
Quelles sont les activités qui ont été proposées, d'une part, et d'autre part, les acteurs sociaux se sont mobilisés pour le mois de juillet, le mois d'août. Alors, me semble-t-il que Régis, Service 13, fut sur la brèche tant ce mois de juillet qu'au mois d'août?
Alors, sur le mois de juillet, effectivement, il y a eu c'est une programmation qui a été très importante sur le mois de juillet. Jean-Marc, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais effectivement, sur le mois de juillet, ça a été une programmation très, très importante avec beaucoup d'événements en pied d'immeuble sur tout le territoire et le bassin de vie du Grand Saint-Barthélemy. Et au mois d'août, un peu moins d'activités sur le territoire, mais ça, c'est quelque chose qui est généralisé à tous les secteurs sur Marseille, avec une fermeture annuelle des associatifs.
Oui, tu voulais dire. Il y a aussi le fait que tu viens de dire une chose importante tout à l'heure, Jean-Marc, par rapport à ce fameux Covid, c'est vrai que le collectif s'est plus renforcé par rapport à ce Covid-là. Et c'est vrai que même pendant le confinement, il y a pas mal de structures qui se sont mobilisées. Et c'est vrai que, j'en reviens par rapport au mois de juillet, il y avait le côté festif et tout. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de mamans qui ne pouvaient pas partir en vacances, tout ça, qui étaient là le soir. Voilà, c'était vraiment génial.
Oui, donc bonjour, Hichem. Hichem de l'ADAP 13. Bonjour.
Oui, bonjour, merci pour l'enchaînement.
Que nous savions que tu arrivais avec du retard parce que tu es très pris avec des réunions. Donc nous parlions un peu de ce qui s'est passé au mois de juillet-août, cette mobilisation. Nous savons que l'ADAP aussi a mené beaucoup d'activités courantes. Est-ce que tu peux les exposer, voir un peu avec quels partenaires et comment les choses se sont déroulées, en sachant que c'est une question qui est un peu plus vaste et qui concerne un peu les partenaires ici présentement. C'est quel est le bilan et savoir un peu si l'hypothèse a pu se vérifier que les familles ne partant pas, le public aurait été plus nombreux pour participer aux activités. Alors
Oui, c'était une période très riche. Ben, moi, pour ma part, on n'a pas eu de coupure. C'est clair que c'est le terme générique, c'est période estivale, mais pour moi, c'était pas forcément une période estivale, c'était juste la suite de la sortie du Covid. Comme tu le sais, nous, avec certaines structures, et notamment Sheba, on n'a pas arrêté. Et du coup, c'était presque même difficile d'avoir pas fait cette pause entre sortie Covid et période estivale, parce qu'on avait un peu la tête dans le guidon. Bon, on a dû adapter nos actions à la période entre guillemets estivale parce qu'effectivement, beaucoup de familles ne partaient pas, ne pouvaient pas partir. Pas seul, bien sûr, les activités. C'est vrai qu'il y a certains collectifs se sont officialisés alors qu'auparavant ils n'existaient pas, mais il y a eu un travail quand même partenarial qui s'est renforcé avec ceux avec qui on travaillait et d'autres partenariats de circonstances. Dû par rapport aux moyens qu'ils ont eu, voire des stratégies. Nous, bien sûr, on accepte, on n'est pas dans le refus de tout partenariat. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, des actions ont eu lieu avec différents partenaires proches ou plus près du terrain.
Alors, comment cela s'est-il manifesté, la prise en compte des gestes barrières, par exemple? Parce que lorsqu'il y a cette mobilisation, il y a la présence des enfants, est-ce que cela a été pris en compte ou bien ça a été un peu difficile de pouvoir respecter tout cela?
Naturellement, nous avons pris en compte la distanciation sociale avec des marquages au sol. Après, c'était un petit peu compliqué de faire respecter ça par les enfants, puisque les enfants, dès qu'ils voient des jeux ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué de les contenir. Mais on a fait de notre mieux pour pouvoir en faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous étions sur des activités de plein air, puisque apparemment le Covid, en plein air, il se propage moins aisément, on dira.
Alors, oui.
Bah, disons qu'à l'époque, cette émission avant-hier n'aurait pas la même signification au niveau des gestes barrières. Nous, à l'époque, quand on a dû mettre en place, parce qu'on parle de période estivale, mais sachant qu'il y a eu une période au milieu où on faisait des animations de rue, notamment la fabrication de masques à l'extérieur dans la rue, tout en étant dans les gestes barrières, en limitant le nombre de personnes autour de l'atelier, des stands, les fiches de présence. Désinfecter les tables, voilà, on a vite été pris au pli, hein. Mais bon, après c'était les contraintes de cette période là
oui. Et cet été il y a eu un dispositif gouvernemental qui était les colonies apprenantes, voire les vacances apprenantes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a eu un retour de la part des partenaires qui étaient dans ce dispositif ou pas?
Sincèrement, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas participé à ce dispositif et je n'ai pas de vision pour pouvoir émettre une opinion.
Moi, je sais que... Vas-y. Ouais. Nous, sur la période estivale, on a l'obligation d'être sur le terrain. C'est-à-dire, il y a minimum 50% des effectifs qui doivent être présents. Moi, pour ma part, j'étais en congé le 18 août. C'est-à-dire, les 7 semaines de la période estivale, j'ai travaillé. Après, c'est délicat de juger... Nous, on a mené des actions, que ce soit éducative, prévention, scolarité, voire séjour, qui pouvaient très bien rentrer dans le projet, dans la thématique école apprenante. Mais moi, je ne maîtrise pas voilà, au niveau finance. Après, je ne peux pas me permettre de juger ceux et celles qui ne se sont pas positionnés, parce que je ne connais pas les tenants, les aboutissants, ainsi que le montage de ces projets-là.
Ce n'est pas à juger, hein, c'était dire qu'elles ont eu lieu, qu'elles se sont déroulées, et qu'elles ont eu peut-être le mérite d'exister.
Il y a eu des activités. Nous, par exemple, il y a eu des activités, il y a eu des séjours, il y a eu des sorties, il y a eu... chaque jour, il y avait quelque chose. Après, sûrement, il y a des partenaires. Après, c'est un peu tabou, hein, les partenaires. Pas tout le monde ose parler de ces enveloppes, de... Voilà.
Après, oui. Il me semble que sur ce territoire, on n'a pas encore les retours officiels de ce que ça a donné cet été.
Voilà. On sait qu'il y a eu effectivement des séjours, comme tu disais, organisés, des séjours d'une semaine, des sorties en voilier, des choses comme ça. Mais effectivement, comme on était très loin du projet, on ne peut pas te dire est-ce que ça fonctionnait, pas fonctionné, combien d'enfants étaient pris en charge. On n'a pas de visibilité là-dessus.
S'il y avait un premier bilan pour tirer de cette mobilisation estivale, quel serait le bilan selon vous? Alors, de cette première étape, ben un bilan, bon, provisoire, cela va de soi. Après le mois de juillet-août, est-ce qu'une bonne chose? Et la question, c'est à savoir s'il y avait une continuité dans le même style, parce que nous constatons, nous observons que selon le conseil scientifique, la Covid redémarre, la fermeture des restaurants, etc. Vous avez dû entendre comme moi les informations. Est-ce que cela signifie qu'il faut avoir ce même genre de mobilisation, que cela puisse se poursuivre ?
Naturellement, la mobilisation des partenaires, la mutualisation des moyens est forcément une bonne chose pour le public. Donc, effectivement, il faudrait peut-être avoir à remener ce genre d'action et ce genre de fonctionnement. Après, on peut dire ce qu'on veut sur le partenariat, mais il est nécessaire en cette période de crise.
Oui. Gerson ?
Le partenariat, de toute façon, oui, il va se poursuivre. Je pense que chaque structure de proximité va continuer la mutualisation des moyens, va continuer à faire de la programmation, mais en prenant en compte, bien entendu, les directives sanitaires et les bons gestes barrières pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc chacun va s'adapter au fur et à mesure de ce qui va se dessiner par rapport à cette crise sanitaire-là.
Après, sur la période estivale, il n'y a pas que le loisir. Nous, souvent, par exemple, on va avoir, c'est un jeu de mots, au niveau barrière, on va dire administrative, intellectuelle. Parce qu'on parle beaucoup de déficit, qu'il n'y a pas d'action de loisir sur le territoire ou autre. Mais on oublie le déficit que ça peut engendrer au-delà du financier, parce que, entre parenthèses, les parents qui ne travaillent pas ou qui sont en chômage partiel ou en télétravail, mais au niveau des démarches administratives. C'est-à-dire que, pour ne pas nommer certaines institutions, mais voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que si peut-être qu'on peut arrêter tout ce qui est restaurant, tout ce qui est lieu de propagation, mais il y a certaines institutions, il faut quand même que ça puisse tourner. Je pense beaucoup aux collégiens, lycéens, voilà.
Juste une précision avant de faire une pause musicale, première pause musicale, c'est le Grand Saint-Barthélemy, recouvre, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore le Grand Saint-Barthélemy, recouvre quel quartier ? Donc, parce que c'est un territoire qui est étendu, et lorsque Gerson, dans l'introduction, parlait de QPV, que signifie QPV, Gerson ? Quartier politique de la ville, n'est-ce pas, c'est cela,
prioritaire de la ville.
Voilà. Et cela recouvre quel quartier? Le Grand Saint-Barthélemy.
Dans le Grand Saint-Barthélemy, oui. Ben, toutes les quartiers du Grand Saint-Barthélemy, la Benosse, les Flamands, Picon, Fontvert, Busserine, Le Maille.
Qui est une copropriété, mais
qui fait quand même partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Donc vous voyez comment ce territoire est extrêmement étendu, avec un nombre d'habitants qui est aussi important, et ces habitants se retrouvent dans des situations de précarité plus, et n'en parlons pas avec la Covid-19. Alors, une pause musicale avec Pierre Perret, Les Confinis.
Ces pauvres gens qui agonissent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer Burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macabées, les cherchaient pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. De les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils en poulet. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Il y avait le Raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphorus. D'après lui, il y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette. Il y en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé. Des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte. La dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, mais vous vous resterez pour la vie déconfinés.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy, notre ami Hichem a été contraint, il a des obligations professionnelles, contraint de nous quitter, mais nous avons notre ami Yazid Atala qui est présentement, donc qui connaît bien le quartier, qui est un militant tant associatif, militant aussi professionnel. Bon, donc bonjour Yazid, comment vas-tu?
Bonjour et merci de me donner la possibilité de m'exprimer.
Ce qui me semble être important, c'est de voir un peu, après avoir vu comment l'été, peut-être que tu as deux mots à nous dire sur le déroulement de l'été, de ta place d'observateur et d'acteur. Comment as-tu vécu cet été sur le Grand Saint-Barthélemy, juillet ou août?
Alors, en tant que militant, on est toujours un peu désolé lorsqu'on voit l'été arriver, parce que les centres sociaux et les équipements qu'on connaît ont tendance à fermer, et donc les petits sont malheureusement livrés à eux-mêmes. Il y a eu quand même pas mal d'initiatives, de belles initiatives, qui ont été faits dans le cadre des colos apprenantes. Donc il y a eu beaucoup d'enfants qui ont pu partir par ce biais-là. Ensuite, en tant que professionnel de santé, écoute, je pense que ça a été quand même un été qui a été très compliqué à gérer. Au-delà du Grand Saint-Barthélemy, ça a été un été compliqué où effectivement on a eu du mal à faire respecter ce qu'on appelle de manière un peu plus courant les gestes barrières. Et donc, on paye malheureusement, et peut-être on en viendra après, on paye un peu le fruit de ce qui a été de manière un peu oubliée cet été.
Merci Yazid. Nous allons poursuivre. Après avoir vu un petit retour en arrière, la rentrée au Grand Saint-Barthélemy, même si elle n'est pas encore terminée, nous sommes quasiment à la fin septembre. Alors, comment s'est-elle déroulée pour les acteurs, tant pour les habitants que les acteurs de terrain que vous êtes? Et qu'est-ce que vous avez pu observer de votre place en arrivant sur le quartier, sur le Grand Saint-Barthélemy? Certains n'ont pas quitté, mais est-ce qu'il y a eu des retours, par exemple, des médiateurs de Régie Service 13?
Alors nous, effectivement, on n'a pas eu de pause cet été, puisqu'on a enchaîné juillet, août et... Bon. Pseudo rentrée pour nous. Nous, ce qui revient le plus en termes de questionnement des habitants, c'est beaucoup d'appréhension par rapport à la rentrée scolaire pour les familles qui se posaient énormément de questions sur les protocoles sanitaires mis en place dans les établissements, la capacité de l'école et les moyens qui sont mis à leur disposition pour les faire respecter. Donc ça a été des sujets très, très prégnants et sur lesquels on a beaucoup échangé avec eux. Cet été, quand même, on a eu aussi, par rapport au Covid, pas mal de retours d'habitants et notamment les personnes âgées. Donc je ne sais pas si je suis dans la thématique, mais beaucoup de personnes âgées aussi qui subissaient déjà de l'isolement, mais qui l'ont encore plus subi avec la période de Covid, avec une crainte d'aller chez le médecin. Et donc des personnes qui se sont un peu plus isolées, encore plus par rapport à l'aspect santé.
Alors,
et juste, je rajouterai quand même aussi une dernière chose, c'est cet été, toujours pareil, c'est des familles aussi qui ont été beaucoup en questionnement et en difficulté sur l'accompagnement pédagogique de leur enfant, puisque pas tout le monde a eu la chance ou l'opportunité, en tout cas les moyens d'accompagner au quotidien leur enfant dans la période confinement sur l'aspect pédagogique et suivi éducatif.
Oui. Alors.
Oui, bah alors nous, la rentrée, elle s'est bien passée, avec, comme à la fin du confinement, une adaptation de toutes nos activités, par exemple l'accès au droit où on a de fortes demandes au quotidien, on a été contraint de mettre en place des prises de rendez-vous, alors qu'habituellement les gens venaient dès qu'ils avaient un souci ou quoi que ce soit. Mais là, on est obligé de tout programmer, de tout prendre sur rendez-vous pour éviter l'accumulation de trop de monde au sein du local, respecter justement la distanciation sociale et tous les gestes barrières, tout désinfecter, tout ça, ce sont des mesures nécessaires mais qui sont un petit peu contraignantes et qui prennent pas mal de temps. Et sur ce que disait Gersandre, effectivement, nous, on a un accueil senior et avant le Covid, on recevait facilement une quinzaine de seniors tous les jours. Et là, elle sort de moins en moins, on doit en avoir 4 par jour, donc c'est l'appréhension, la crainte et tout ça qui font qu'on a du mal un petit peu à reprendre sur le secteur senior.
Oui, donc là on sent bien qu'il y a un climat qui n'est pas des plus sereins, hein, c'est ce que moi ce que l'on puisse dire. Peut-on observer qu'à l'issue avec toute cette pandémie, que ce sont des poches de pauvreté de plus en plus importantes? J'entends ce que Gersandre disait en parlant des personnes seniors qui étaient de plus en plus isolées. Alors la question c'est comment essayer de répondre tant à cette problématique sanitaire d'une part pour ces personnes et pour l'ensemble de la population, parce que c'est la question qui va se poser, surtout dans le contexte qui est actuel, où que l'on dit Marseille est dans le viseur, et que tout le monde dit, je pense, surtout les Marseillais, pensent que c'est parce que c'est Marseille, donc ils sont condamnés forcément, ils sont sanctionnés. Alors, Yazid, peux-tu essayer d'apporter des réponses à cela, voir un peu quelle est la situation de Marseille vis-à-vis du Covid? On a déjà tellement entendu d'informations, de contre-informations, et que nous ne savons plus où nous en sommes.
Très concrètement, sur le secteur dans lequel on se situe, on est quand même dans des taux très très importants de personnes qui sont infectées. On est, alors après ça fluctue en fonction des semaines, mais on était aux alentours de 16-17% sur certaines semaines. Donc oui, il y a une circulation très très active du virus dans notre secteur. Donc minimiser ce qui a été dit, ça serait totalement inconscient de ma part. Par contre, on a des indicateurs qui sont concrets, hein, qui sont les occupations des lits en réanimation. Pour les réanimations qu'on suit, la réanimation de l'hôpital Nord ainsi que la réanimation de l'hôpital Européen, ils sont quasiment saturés. Donc ce sont des indicateurs qui sont concrets. Alors ils sont saturés de quoi? De personnes infectées du Covid. Donc c'est pas des réanimations classiques. Après on peut parler et on peut polémiquer par rapport à la mortalité, mais le fait est que le constat qu'on peut faire de manière froide aujourd'hui, c'est qu'il y a une circulation active à Marseille et plus particulièrement dans notre secteur. Après, elle peut s'expliquer, hein, on peut éventuellement rentrer dans le détail des explications. Une chose est sûre, c'est que le constat qu'on fait, nous, il est très alarmant par rapport à l'accès aux tests. Alors, je ne veux pas non plus dériver par rapport à la question que tu m'as posée, parce qu'au départ, c'était la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire, oui.
Voilà, donc on va rester juste sur cette thématique-là, mais tu as une rentrée avec des informations qui sont contradictoires d'un jour à l'autre. avec un protocole sanitaire qui au départ était de 14 jours, ensuite allégé à 7 jours, ensuite au bout de 3 enfants malades ou 3 personnels malades, on ferme l'école, maintenant on maintient l'école en place, on va dans du grand n'importe quoi, et donc les parents, je les comprends, sont complètement perdus. Moi-même, en tant que parent et en tant que professionnel de santé, j'ai du mal à suivre. Ensuite, je me mets à la place des enfants qui maintenant, du fait du confinement plus de cette rentrée scolaire inédite, se retrouvent à être stressés. On a de plus en plus où tu as des enfants qui sont limite névrotiques. Donc ils ont peur, ils sont dans un stress en permanence. Donc c'est pas fait pour favoriser. Malheureusement, quand on voit dans nos secteurs en particulier des écoles qui sont surchargées, on n'est pas dans des dispositifs où les classes, et je parle sous couvert des acteurs qui sont dans ce secteur-là, on n'est pas dans des classes qui sont minimalistes. On est dans des écoles quand même qui regroupent 200-300 élèves. Donc ça peut poser forcément des problèmes.
Donc pour essayer de répondre à cette situation sanitaire, est-ce que le Covid-19 existe toujours, est toujours en activité, et comment les choses se passent, par exemple, ne serait-ce que pour apporter des réponses aux habitants et habitantes du quartier du Grand Saint-Barthélemy? Alors, comment les choses peuvent se dérouler?
Je te demande juste de regarder mes chevilles, elles ne vont pas gonfler. Mais ce que je vais te dire, c'est que le projet Nord-Covid, en fait, il est né pendant la période du confinement et il existe toujours. C'est un collectif, c'est pas une association, donc c'est un collectif dans lequel tu as des infectiologues, tu as des biologistes, tu as des laboratoires, des médecins généralistes et des acteurs de terrain. Le projet est né au mois de mars et on a toujours été, c'est pour ça que je te demande de regarder mes chevilles, on a toujours été en avant par rapport au problème. Nous avions dénoncé dès le départ la possibilité d'isoler les gens qui sont infectés. Malheureusement, les autorités n'ont pas suivi préconisation. Nous avions déposé un dossier dans lequel on proposait de faire de la prévention et de la sensibilisation. Donc prévention, sensibilisation et du dépistage avec des équipes mobiles qui partiraient dans notre secteur. L'ARS a retenu que la première partie, c'est-à-dire prévention et sensibilisation. Maintenant, ils se rendent compte qu'effectivement, il aurait peut-être valu opter pour ce genre de projet, c'est-à-dire aller dépister les gens au pied des immeubles, tout simplement pour éviter la cohue que tu peux avoir dans des laboratoires. Il faut savoir que les laboratoires ont employé des agents de sécurité parce que les gens ont tendance à se mettre sur la gueule parce qu'il n'y a pas de place. Ils ont 50 tests par jour, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et c'est compliqué parce que les gens, dans le cadre du tracking de la sécurité sociale ou autre, on leur demande d'aller se faire dépister. Donc il y a un stress en permanence. Nous, qu'est-ce qu'on a proposé tout simplement? Donc maintenant, ce qu'on fait, on a acté le fait que l'ARS ne veuille pas qu'on aille faire du dépistage, alors que pour nous, c'était nécessaire depuis le mois de mai. On a continué à faire de la prévention. Durant tout cet été, on a eu à peu près une vingtaine de dates sur les plages, essentiellement, et puis auprès de petites assos qu'on côtoie, dans lequel on fait de la prévention et de la sensibilisation autour des gestes barrières. Alors, on ne vient pas rabâcher une information, blablabla, blablabla, blablabla. Non. Ils vivent une expérience sociale, il y a des méthodes ludiques qu'on a mis en place, et ça leur permet quand même d'intégrer et d'accepter les gestes barrières. Ils ne les acceptent, les gestes barrières. Ensuite, toujours en discussion, alors nous, notre entre guillemets, spécificité, c'est qu'on utilise la voie médiatique pour nous faire entendre. On a Annie Lévy qui est avec nous, qui est professeure Annie Lévy qui est avec nous dans le dispositif. Régulièrement, elle passe sur BFM pour alerter. Alors on se concerte, on lui fait les remontées de terrain. À partir de là, on adapte ce qu'on appelle des éléments de langage. Et on tape, et on tape. On a tapé sur l'ARS ou tout autre, mais on est plutôt un comité de veille. On est là pour alerter. Nous, ce qu'on demande maintenant, pour être concret, c'est qu'on puisse créer des drives. On l'a demandé depuis un bon petit moment, mais à la limite, why not, on revient. Créer des drives dans lesquels tu aurais 3 files. Une file que tu vas prioriser, une file pour les personnes fragiles, les femmes enceintes, une file pour les personnes symptomatiques et une file pour le tout venant. Donc ce qui éviterait quand même que les gens ne se retrouvent à se disputer pour avoir un prélèvement. L'ARS est OK, a priori, la préfecture est OK. Charge maintenant à nous de trouver un endroit qui puisse être le plus stratégique. On a fait une demande en ce sens à la mairie du 13-14. On a eu une fin de non-recevoir de leur part, donc on continue à voir avec des acteurs privés pour éventuellement faire ce genre de choses, en sachant qu'on pourrait, je parle au conditionnel, augmenter les capacités et aller jusqu'à entre 500 et 1000 tests jour, ce qui serait inédit pour notre secteur.
D'accord.
Voilà, ça c'est du concret.
Oui. Parmi les actions concrètes, il me semble que quand tu parles de médiatisation, il y a eu une formation, sensibilisation aux gestes barrières, notamment comment le virus pouvait-il se transmettre à partir d'objets, de portes et autres. Donc ce sont des expériences qui sont visibles et qui sont, comment dirais-je, non seulement visibles, mais que les personnes qui participent prennent conscience effectivement du danger, de la nécessité effectivement d'utiliser le gel tout simplement.
Alors on a nos équipes en fait de médiateurs qui sont accompagnés d'infirmiers qui sillonnent les quartiers. Donc on a été dans le 16e, dans le 15e et on va revenir progressivement dans le 14e. Donc oui, ce sont des médiateurs qui, de manière ludique, autour de 4 ateliers grosso modo, ces 4 ateliers permettent aux personnes présentes de comprendre la propagation d'un virus, de comprendre ce que c'est qu'un virus, de comprendre l'intérêt de se laver les mains avec le gel hydroalcoolique ou avec le savon, de comprendre l'intérêt de porter un masque, la distanciation sociale, et éventuellement de comprendre quels sont les symptômes et éventuellement d'être orienté, parce que c'est pas facile, en direction soit de son médecin généraliste ou soit des labos ou peu importe comment je réagis en étant confronté à ces symptômes-là.
Donc, il me semble qu'à travers, parce que ton introduction était assez alarmiste concernant les cas de Covid, les cas de personnes contaminées, la question c'est si effectivement, au niveau de la mobilisation, cela ne pourrait pas faire partie d'un projet qui est effectivement concret et que les partenaires, je ne sais pas ce qu'en pense tant Régie Service que Sheba, puissent réfléchir à un projet commun pour qu'effectivement que l'on puisse appuyer en ce sens, qu'un projet sanitaire, un protocole sanitaire puisse aussi être réfléchi et construit, porté par l'ensemble des partenaires pour que vous ne puissiez pas vous retrouver seul aussi face à cette pandémie, surtout dans les quartiers.
Alors si tu me permets juste de rajouter un petit élément concernant la rentrée, on est intervenu auprès d'équipements sportifs, auprès de clubs sportifs pour mettre à disposition notre savoir-faire par rapport au protocole sanitaire. On a adapté en fonction de leurs pratiques. Donc on essaie de développer des partenariats avec des acteurs associatifs en dehors du Grand Saint-Barthélemy, parce qu'au départ on a commencé en dehors du Grand Saint-Barthélemy et là on en a déjà discuté avec Lily, donc on arrive dans le Grand Saint-Barthélemy aussi.
D'accord, oui.
Yazid, par rapport au Covid, moi ce qui m'interpelle, c'est vrai que j'attends souvent à BFM, à CNews, des élites, par exemple, qui, par rapport à quand j'appelle M. Raoult, le professeur Raoult, qui n'est pas du tout inquiet par rapport à ce qui se passe dans les quartiers de Marseille, il y a une élue qui m'a interpellé hier, qui avait dit, et moi je me suis dit peut-être c'est une bonne idée, pourquoi il n'y a pas de conseil scientifique départemental.
Voilà. C'est ce qu'on a demandé à tort et à cri, que ce soit moi-même ou Annie Lévy. On a demandé à ce que la mairie puisse intégrer un groupe de veille, un groupe de conseil, un groupe de appeler ça comme on veut, mais qu'on puisse avoir des informations qui puissent être concrètes. Pour répondre à ta question, on a demandé à l'époque à l'ARS au mois de mai qu'elle puisse cartographier des personnes touchées par le Covid, et ce qui nous a permis quand même de mettre en lien certains clusters. Donc oui, nous on est preneurs et c'est ce qu'on demande depuis le début.
Avant le départ de Lily, peut-être peux-tu nous dire un peu si un projet de cet ordre-là sanitaire pourrait être inscrit dans un projet à Sheba, puisque vous accueillez pas mal de dames aussi qui sont dans la crainte, dans l'inquiétude de cette pandémie. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, par exemple, d'interpeller Yazid et de dire effectivement que c'est quelque chose qui est extrêmement important, même si ça peut partir des petits, parce que j'ai foi, moi aussi, dans les petits, que ce sont les petits qui, généralement aussi, apportent des éléments de réponse à leurs parents, que les parents peuvent les suivre aussi, en termes de conseils.
Alors, en termes de protocole sanitaire, si Yazid est prêt à venir nous aider à mettre en place un protocole sanitaire, on est tout à fait preneur. Mais déjà, Yazid va intervenir avec ses médiateurs au sein des adhérents de Sheba pour leur expliquer l'importance du port du masque, la distanciation sociale, ce que c'est, et d'autres choses, propagation du virus. C'est ce dont il vous parlait tout à l'heure, ce qui a été mis en place au niveau des plages, il me semble. Donc c'est déjà le cas, on est déjà sur la voie de la sensibilisation, on dira, même si la sensibilisation on en fait depuis que le Covid est apparu, mais là, venant de la bouche de professionnels de santé, je pense qu'ils les prendront certainement plus au sérieux, ils sont plus crédibles et plus compétents que nous.
Eh bien, merci beaucoup, Lily.
Merci pour l'invitation.
Alors, chef, veux-tu réagir par rapport à ce qui est dit? Les médiateurs ont-ils fait un retour selon lequel, effectivement, des cas de Covid étaient de plus en plus présents, omniprésents sur le Grand Saint-Barthélemy, et qu'il fallait pouvoir réagir de façon peut-être un peu plus efficiente?
Alors, on a de part et d'autre, effectivement. On a de part et d'autre des retours d'habitants qui effectivement nous communiquent que leurs proches, un tel a été contaminé. On est aussi touché, tout le monde est touché directement et la régie compris, puisqu'on a eu malheureusement quelques cas qui ont participé à ralentir notre activité pendant une petite semaine. Je pense que la régie Service 13 et les autres acteurs associatifs, pas que sur le Grand Saint-Barthélemy, parce que nous on intervient sur plusieurs territoires, la question de la crise sanitaire, c'est un enjeu qui est collectif, et la régie Service 13, comme sur d'autres domaines, les médiateurs participeront à appuyer toutes les initiatives et à aider au développement d'actions de sensibilisation et de prévention dans ce domaine-là. Les médiateurs mènent à leur niveau, avec les connaissances qu'ils ont, des actions de prévention, de sensibilisation, de rappel des gestes barrières auprès de la population dans les quartiers sur lesquels ils interviennent. Néanmoins, les médiateurs n'ont pas la technicité et ce que tu disais tout à l'heure, ces outils un petit peu ludiques de travailler avec la population. Donc nous, on est sur des rappels très, très basiques, le port du masque, le gel hydroalcoolique, etc. La partie un peu plus ludique avec des vrais outils, etc., ça on l'a pas. Et bien entendu, on participera aux actions qui seront menées dans ce sens-là.
Eh bien, donc il y a un travail important sur ce plan-là à faire, parce que je pense que un tel tableau aussi a dû impacter la rentrée scolaire. Alors, bonjour Inès. Donc, bonjour. Merci d'être présente. Alors, peux-tu dire deux mots concernant ton association? Tu es présidente de l'association des parents d'élèves. Puis quand
exactement.
Voilà, peux-tu en dire deux mots? Depuis quand vous existez?
Alors, nous, on existe depuis 2017, mais l'association APB Serine existait aussi bien avant, depuis 2015. Donc, moi, j'ai pris le relais depuis 2017. Voilà. Donc, du coup, nous, en tant qu'association parents d'élèves, on est là, on soutient les professeurs et aussi les parents. Donc, ce qui est par rapport au contexte du Covid, donc nous, pour le moment, on n'a pas fait de sensibilisation au niveau des parents d'élèves. Par contre, on aimerait bien que ça soit aussi, qu'il y ait une sensibilisation au niveau des enfants, parce que ça part aussi des enfants à la base. Hein, donc, voilà. Après, moi, j'essaie de travailler, de trouver des solutions pour pouvoir faire une sensibilisation, ne serait-ce que, pas que à l'école, hein, que les parents puissent avoir même, je sais pas, un petit protocole, un petit livret, un petit feuillet, le ramener à la maison, qu'il étudie avec les enfants. Voilà.
Et la rentrée de septembre, comment s'est-elle opérée?
Alors...
Est-ce que les parents que tu as pu rencontrer ou croiser ont-ils porté des masques?
Alors, au tout début, oui, mais j'ai l'impression que ça se relâche un peu. Donc, il y en a qui le portent, il y en a que non. Et ce que je trouve... en fait, il y a beaucoup de parents en fait, à la sortie à 16h30. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait un peu embouteillage. Et la distanciation, elle est un peu compliquée. Hein, donc, voilà, ça, c'est ce que je remarque.
Par rapport aux nouvelles communautés venu habiter ici, il y a aussi la barrière de la langue. Comment les choses peuvent pallier un peu cette difficulté d'échange et de relation avec ces nouvelles communautés? Alors, Yazid, est-ce que tu as rencontré des personnes aussi, kurdes ou albanaises ou autres, qui viendraient, et comment les choses se déroulent? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que l'on puisse penser à avoir aussi des traducteurs pour mettre en œuvre ce que l'on appelle et ce que l'on qualifie du vivre ensemble?
Alors, très concrètement, on l'a pris en compte dès le départ, parce qu'il s'agissait quand même de pouvoir parler à tout le monde. et de faire, parce que le sujet est tellement important que chacun doit l'assimiler. Donc on a pris quand même des traducteurs qui sont dans les différents territoires, qui peuvent être kurdes, qui peuvent être comoriens, qui peuvent être maghrébins, qui peuvent être albanais, ce qui est un peu plus compliqué d'en trouver, mais on a réussi à trouver des gens de bonne volonté qui sont prêts quand même à venir et à pouvoir parler. Et puis, de manière très simple, on est passé, quand on est vraiment dans la difficulté, par Google Traduction, et on arrive, quand on peut, à essayer de faire passer le message auprès de cette population. Mais voilà, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut quand même, dans le cadre des activités de chacun, si on veut que le vivre ensemble et si on veut que tout le monde puisse respecter les fameuses barrières et gestes de sécurité, que tout le monde puisse les comprendre. Alors nous, on a fait quand même des documents en arabe. On a fait des documents avec, on est en train de faire des petites préparations. Alors l'arabe, pas tout le monde dit l'arabe, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc l'arabe, il est surtout en direction des gens qui viennent de Syrie, donc les réfugiés. On a des documents qui sont en des petites capsules vidéo qu'on est en train de préparer, qui vont être faites en comorien, qui vont être faites en kurde, qui vont être faites en albanais, en turc, et vice-versa. Donc c'est en cours de préparation.
Inès, avec les parents que tu peux croiser à la sortie des écoles, donc ça doit être de toutes les nationalités, est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que tu sens que les parents, tu ressens un peu si ces parents sont préoccupés tant par rapport à la situation sanitaire, puis après, dans un deuxième temps, par rapport au climat social qu'il y a aussi, et que le quartier peut être aussi enclavé?
Ben déjà eux bon ils se soucient hein, je veux dire ils savent que voilà qu'il y a le Covid et tout ça, mais le problème c'est qu'en fait ils ont du mal à porter le masque. Bon, il y en a qui le portent, il y en a que non. Ben, il y en a qui respectent la distanciation, il y en a que non aussi. Mais ce que je pense, c'est que le masque, déjà, moi, je trouve qu'il est assez cher. Déjà, le porter, voilà, quoi. Donc, l'acheter, je crois qu'il fait combien, 85 centimes, donc c'est hors de prix. Et donc, il dure que 4 heures. Donc, voilà, quoi, même s'ils portent le masque. Voilà, donc ils viennent chercher leurs enfants. Leurs enfants ne portent pas le masque parce que ceux qui sont au CP jusqu'en CM1, ils ne le portent pas. Je crois que c'est à partir de 11 ans. Donc en CM2, ils le portent. Mais moi, je sais que mon fils, il ne comprend pas pourquoi d'autres le portent et lui non. Donc voilà. Après, bon, il y a un certain protocole qui a été mis en place par le ministre de l'Éducation. Donc on essaye de se plier à ça, quoi. Voilà.
Juste pour répondre à Inès, concernant le prix des masques, il y a des distributions qui se font au niveau de la mairie et il faut regarder avec les différents points. Donc là, les familles peuvent avoir des masques gratuits. Je crois que c'est 5 ou 6 masques en tissu qu'ils peuvent avoir gratuitement. Ensuite, concernant le prix, je pense que le prix il est un peu plus bas maintenant. Je crois qu'on doit être aux alentours de 10 centimes, 11 centimes. Ouais, ouais. Et grosso modo, tu les as 9 euros, entre 8 euros et 9 euros la boîte de 50. Donc ça
a bien baissé.
Ça a bien baissé. Et tu peux même avoir un peu moins si tu vas en ville. Bon, je ne vais pas faire publicité, tu peux l'avoir entre 4 et 5 euros. Mais au-delà de ça, il y a la mairie, il faut les solliciter.
Sur le site de la ville de Marseille, exactement, on trouve les points de distribution des masques.
Ils ne sont pas très bons. Après, je ne critique pas. La mairie, mais je sais qu'il y avait un souci avec les masques, c'était assez épais, qu'ils avaient du mal à le porter. Moi, c'est les échos que j'ai eu des parents. Donc, voilà.
Après, dans le cadre des actions que nous menons, nous, on a un petit atelier sur la fabrication d'un masque. Et on montre de manière très pragmatique, un peu comme à l'époque MacGyver faisait. C'est grosso modo, je suis dehors, ou dans un magasin, ou peu importe. Ne serait-ce qu'avec une chaussette et un Kleenex, tu peux fabriquer un max. Donc ça fait partie des actions que nous menons. Mais voilà, c'est tellement important de garder, de se préserver quand même de ce genre de choses, qu'il y a des possibilités. Donc il faut vraiment les orienter en direction de la mairie, en direction des nous, de temps en temps, en fonction de l'action que nous menons, de temps en temps, en fonction des familles, des situations, on donne des masques. Mais c'est entre guillemets une goutte d'eau par rapport à ce que doivent avoir de manière journalière.
Yazid, quand tu parles de nous, c'est Nord-Covid ? Voilà, précise.
Alors je vais préciser. Nord-Covid, c'est un collectif dans lequel l'association Santé Environnement pour tous
fait partie de ce dispositif. NordCovid est la tête médicale, santé environnement pour tous est la tête, on va dire, prévention et acteur associatif.
D'accord.
Voilà. Mais par contre, il y a un comité de pilotage dans lequel tu as ben, le docteur Slim Hadidi, Annie Lévy qui est dedans aussi, donc tu as l'impact, je la cite, mais infectiologue de l'hôpital Nord, donc voilà, tous ces gens-là font partie de ce dispositif.
Oui, nous allons faire une pause musicale. Merci Sidi. Nous allons écouter un peu de musique shabi et instrumentale. Merci.
Thank you.
échos du Grand Saint-Barthélemy que nous poursuivons avec nos invités sur les ondes de Radio Galère. Invités, bien sûr, il y a Inès de l'Association des parents d'élèves, Gersand qui est de Régis Sud, qui est la chef de... Régis Service 13, pardon, ainsi que Yazid qui nous a fait développement des activités, surtout de l'ampleur de la crise sanitaire qui est galopante, effectivement, puisqu'il est confronté à cette réalité. Donc, lorsque nous parlons de tout cela, la question que, lorsque je parlais de poche de pauvreté, c'est qu'est-ce que vous avez pu observer? Parce que déjà, la situation des habitants était très, très difficile. Peut-on dire que cette situation, non seulement elle est dans un état catastrophique, est de plus en plus dramatique pour certains habitants? Est-ce que vous avez pu observer, d'où les difficultés aussi de se faire prendre en charge d'un point de vue sanitaire? Alors, du côté de Régis, bon, les médiateurs ont-ils fait un retour concernant la situation de précarité, voire de pauvreté dans laquelle étaient actuellement les habitants du Grand Saint-Barthélemy?
Alors, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas encore le recul nécessaire et pour donner beaucoup d'objectivité à ma réponse. Tout à l'heure, je parlais de problématiques liées à la santé. Là, oui, on a pu observer des habitants, notamment des publics plus âgés, notamment seniors, qui se sont éloignés de l'accès aux soins. Parce que une forte appréhension de sortir, d'être contaminé, etc. Donc ça, oui, on l'a observé. On a observé aussi des familles qui se sont vues contraintes, entre guillemets, de nourrir les enfants sur les repas du midi, puisque l'école était fermée due au confinement. Donc ça impliquait effectivement une difficulté financière supplémentaire pour ceux qui ont la gratuité de la demi-pension. Et puis, pendant la période confinement et le maintien le développement des appels téléphoniques qu'on a pu faire, nous, au niveau de la population et des habitants avec qui on était en lien, ça a été beaucoup d'orientations et beaucoup de besoins en termes pour accéder à l'alimentaire. Beaucoup de besoins et beaucoup de demandes sur les colis alimentaires, les lieux où ils pouvaient obtenir des colis alimentaires.
Oui, donc.
Moi, je la rejoins parce que c'est vrai que au début de la crise sanitaire, ça a engendré en fait une grande précarité au niveau alimentaire. Parce que moi, j'ai des familles, des parents d'élèves qui m'ont alerté, qui m'ont dit voilà, on a nos enfants à la maison, d'habitude, ils mangent à la cantine. Ils se retrouvent matin, midi et soir à la maison, donc c'est des repas en plus. Par rapport au RSA, ça ne suffisait pas. Bon, pas que le RSA, il y a des familles aussi même qui travaillent et qui m'ont dit qu'on a du mal à finir le mois. Et les personnes âgées qui avaient du mal à aller ne serait-ce que dans les grandes surfaces parce qu'il y avait une file pas possible, donc du coup ils restaient à la maison. Et même, je veux dire, cette crise sanitaire, au tout début, on n'en savait pratiquement rien, quoi. Donc, on était là, tout le monde restait à la maison, ça a fait une panique générale, quoi. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'association, et on s'est relié avec tous les secteurs associatifs, donc ne serait-ce que la plateforme du McDo, nous, on s'est mis en lien avec eux et on a pu bénéficier, en fait, des colis alimentaires. On a fourni à des parents, pas que des parents, des personnes âgées. On a demandé aussi, nous, un agrément au niveau à la banque alimentaire. Donc, on nous a donné un agrément provisoire. Donc, on a pu alimenter des familles. Mais c'est vrai que ça a été... Ça nous a mobilisé beaucoup de temps et beaucoup de bénévoles. Voilà.
Oui, Yazid.
cette crise sanitaire a montré ce qu'on disait depuis de nombreuses années, que les gens vivent dans une extrême pauvreté. Quand il y a en face un système précaire qui repose sur rien, sur la bonne volonté de certaines associations, d'une communauté ou d'une communauté de vie, à un moment donné, ben, les pouvoirs publics vont être défaillants, et ils l'ont été pendant la période du confinement, où les gens ont été livrés à eux-mêmes. Inès, tu rappelles à juste titre cet épisode-là. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont toquer auprès des associations pour avoir de l'aide alimentaire, des colis alimentaires. Il y a des retards de paiement, il y a des retards de traitement de dossiers, donc forcément des situations fragiles qui tombent dans une précarité extrême. En plus, on rajoute aux familles le poids de l'achat de masques, le poids d'un protocole sanitaire qui est forcément obligatoire en cette période, mais qui est quand même très compliqué à gérer pour eux. Donc oui, tu tombes dans une situation de précarité, une situation de pauvreté qui est quand même extrême. Mais j'allais te dire, on n'est pas plus étonné que ça, nous. Oui, puisqu'on le savait depuis un bon moment que c'était un système qui ne reposait sur rien, et puis on a mis la poussière sous le tapis, et au bout d'un moment elle apparaît, elle déborde un peu trop.
Cela signifie que les inégalités se creusent de plus en plus, parce qu'il y a certaines classes sociales, hein. Bon, on me prendra pour un vieux lorsqu'on parle, je parle toujours de les deux classes, nous sommes toujours là-dedans me semble-t-il, et que ces inégalités s'expriment d'autant plus en période de cette crise sanitaire. Donc c'est quelque chose qui est important, d'autant plus que, concernant la situation de l'emploi, déjà. Si on considère un peu le Grand Saint-Barthélemy ainsi que d'autres quartiers populaires, on peut observer qu'il y a un problème de qualification, donc d'absence de diplôme, et au-delà de la discrimination, une assignation par rapport au territoire, une assignation par rapport à son appartenance communautaire, quand on a un nom à consonance maghrébine ou africaine ou autre, et lorsque l'on nous voit, n'en parlons pas. Donc, même si c'est important, je pense qu'il faut que l'on puisse mettre cela entre parenthèses, mais considérer que le peu de diplômes, de qualifications aussi, complexifie la situation d'emploi. Et si on revient à la situation d'aujourd'hui, avec la problématique des restaurants qui seront fermés, des brasseries et autres, c'est que cela sous-tend que tous ces jeunes qui devraient être inscrits, qui sont à la recherche d'un apprentissage, vont se retrouver encore un peu plus en difficulté. Comment pallier à tout cela et répondre? Donc je pense qu'effectivement, le Grand Saint-Barthélemy fera partie des quartiers populaires qui seront dans des situations de sinistrés, et c'est moins ce que l'on puisse dire. Alors, à ce niveau-là, les acteurs de terrain peuvent-ils apporter quelques réponses? Peut-être la régie service 13 avec les formats d'insertion, mais ce ne sont pas des véritables emplois. Mais que faire par rapport à de telles situations? Comment y répondre?
J'aurais du mal à te donner de réels pieds. Je ne suis pas spécialisée dans ce domaine-là. Je pense que des structures en lien avec l'emploi, comme le Pôle emploi, la mission locale, etc., doivent certainement avoir peut-être des chiffres plus objectifs à donner sur les conséquences là, à très court terme, et voir s'il y a eu une augmentation de certains taux ou pas liés à ce confinement. J'ai du mal à te répondre par rapport à ça.
Si la situation est en boucle, pourrions-nous dire. Lorsqu'on voit la situation de l'emploi, la situation de la formation, la situation des enfants qui sont des décrocheurs, tels qu'on les qualifie, donc toutes ces problématiques se rajoutent les unes aux autres. Alors, temps autre, au niveau de certains partenaires que je rencontre, ils manifestent une forme d'impuissance et de dire qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à une telle situation. D'autant plus lorsque l'on sait que les quartiers, depuis quelque temps, sont enclavés. Quelles sont les réponses aussi apportées par la puissance publique? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce qu'à un moment donné, il faut effectivement avoir un regroupement d'un ensemble de partenaires pour dire effectivement que la situation n'est pas vivable au sein du Grand Saint-Barthélemy comme dans notre quartier populaire?
Alors, très concrètement, il faut qu'il y ait un regroupement quand même. Il faut qu'on puisse être audible auprès des pouvoirs publics. Ils ont été défaillants depuis des années et des années, ça, on va pas faire le constat malheureusement. Les chiffres sont là, le chômage endémique, les gens qui vivent de revenus sociaux, donc forcément, il y a une situation qui est très complexe.
Ensuite, il y a des solutions à court terme et des solutions à long terme. Sur les solutions à long terme, il y a forcément la formation. Et ça passe par l'école, ça passe par l'implication des familles, ça passe par l'implication des acteurs éducatifs, du monde éducatif. Après, les solutions à court terme, ben, j'allais te dire, on est quand même malheureusement tous dans la même barque, puisque pas plus tard qu'hier, moi j'ai eu des familles qu'on suit, qui ont été licenciées, puisque ben, ils ont appris que la société ne peut plus tenir parce qu'elle a moins de commandes. Et on est dans une situation qui est très compliquée. Le Covid aura tué plus de sociétés, d'emplois, que de personnes. Donc c'est un peu compliqué. Souvent, c'est les emplois peu ou pas qualifiés qui morflent. C'est les gens qui vivent dans ces quartiers populaires. Honnêtement, alors oui, on a un sentiment d'impuissance parce que on s'est battu, je prends le cas de pour préserver de l'emploi, que ce soit Carrefour Le Merlan ou le McDo de Saint-Barthélemy. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué.
Oui, Farid.
Oui, je voulais savoir aussi, peut-être que même avant le Covid, est-ce qu'il n'y a pas une discrimination de territoire, plus ou moins?
Discrimination liée par
toujours
rapport
dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'emploi.
Bah, tu le vois, depuis
des années.
La discrimination est liée, tu peux prendre tous les paramètres que tu veux.
Et j'en reviens par rapport au Covid actuellement, c'est encore pire alors.
Moi, je prends juste un paramètre que je maîtrise, que je connais, donc je vais parler de celui-ci, qui est l'accès aux soins. En période normale, on est quand même dans des situations de tension. En période normale. Mmh. En période de Covid, on est dans des situations impossibles. Donc ensuite, si tu tires, suivant l'angle dans lequel tu te situes, hein, l'éducation, le transport, l'accès à la culture, donc tout ceci, oui, mais ça malheureusement, j'allais te dire, c'est depuis notre naissance où on est dans la difficulté, pas dans l'aisance.
Eh oui, donc nous allons faire une pause musicale parce qu'elle leur tourne. Et ce morceau est dédié à toutes les dames parce que ce que l'on peut considérer, voir et observer sur le quartier, nous observons que surtout ce sont des femmes qui sont au combat, qui se lèvent majoritairement. Tant d'autres, j'aurais tendance à dire, mais où sont les hommes du quartier, n'est-ce pas, Yazid? Donc ce sont les femmes, ce sont un hommage à nos héroïnes de l'ombre, puis-je dire, un morceau de Grand Corps Malade qui s'intitule « Mesdames, Galère sur 88.4 ».
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Merci Inès. Nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Nous recevons Safia. Safia qui est la coordinatrice de l'association Adélis, association aussi de médiation. Absolument. Sur le quartier.
Bonjour.
Oui, alors Safia, tu arrives presque en fin du parcours, mais je te remercie d'être présente. Nous avons fait essayer de dresser un peu le bilan de cet été, juillet-août. Donc, pour certains qui étaient présents, les médiateurs d'Adélis aussi étaient présents sur le terrain. Et ont-ils fait un retour par rapport à comment, les tensions ou pas, et les activités qui ont été menées?
Alors, tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Nous sommes ravis d'être ici. En ce qui concerne les activités du mois d'août, alors effectivement, la MSU a été présente sur les territoires tout l'été. De toute façon, c'est sa vocation d'assurer une présence sociale constante. Nous avons effectivement participé aux différentes activités que les partenaires ont mis en place. Excusez-moi. Et tout s'est très bien passé. Ça a été très convoité par les habitants. On a observé aussi une porosité entre les différents secteurs comme Picon, Busserine, Le Mail et même Fonds Vert. Donc c'est très prisé, surtout qu'on le sait, il n'y a pas eu de départ en vacances, ça a été un peu compliqué pour les habitants et notamment pour les habitants de ces quartiers-là. Voilà, et ça s'est bien passé, bonne convoitise de tous, les partenaires ont été plutôt satisfaits, les masques ont été portés, donc le respect à ce niveau-là a été de mise et les médiateurs se sont sentis très à l'aise tout l'été.
Eh bien, c'est une bonne chose. Bon, c'est une note positive, dans ce tableau aussi sombre que nous avions dressé précédemment, n'est-ce pas, Yazid et Gerson. Donc, il y a la situation sanitaire dressée par Yazid qui était assez alarmiste. Est-ce qu'au niveau d'Adélis, vous avez eu un retour concernant les cas de Covid qui se développent sur le territoire?
Mais écoutez, nous, de toute façon, au niveau par exemple de nos équipes de médiation, nous n'avons pas eu de cas de Covid durant l'été. Ça, c'est une première chose. Malgré même si on a les masques et qu'on évite les contacts, on est quand même en relation avec les habitants et on est constamment dans la rue. Donc nous n'avons au sein de nos équipes rien à constater à Marseille. Et puis les habitants ne nous ont pas remonté de cas particuliers de Covid, en tout cas avérés et dangereux, avec une forme dangereuse.
Est-ce qu'il y a... Oui, Yazid, tu voulais intervenir peut-être?
Non.
D'accord. Donc nous observons qu'effectivement qu'il n'y a pas de cas, mais néanmoins, bon... Des cas, il y en a, selon Yazid et son association, sa structure dans laquelle il travaille, et qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants et que nous puissions être de plus en plus porteurs aussi de messages vis-à-vis des habitants et les solliciter au-delà du coût du masque, parce que cela a un coût, effectivement, c'est ce qui a été dit et exprimé avec beaucoup de force, et qu'il faut que les habitants puissent, comme d'autres, parce que nous n'avons pas à faire une stigmatisation des habitants du quartier du Grand Saint-Barthélemy, mais que tout un chacun puisse aussi se sentir responsable de sa santé, qui aussi impacte la santé d'autrui. Alors Yazid, tu voulais intervenir par rapport à cela? Oui.
Non, juste je voulais, tout à l'heure on parlait des masques et de l'accès aux masques pour les habitants, et on en parlait pendant la pause. Du coup, peut-être le dire auprès des auditeurs, sur le site internet donc de la ville de Marseille, par mairie de secteur, en consultant le lien, ils pourront avoir accès aux lieux, au jour de distribution de masques qui se fait gratuitement.
Et est-ce qu'il y a un rappel qui me semble être nécessaire, parce que maintenant, dans le cadre des informations communiquées par le gouvernement, des interdits, il y a celui-ci de rappeler qu'au niveau des événements, pas plus de 10 personnes qui puissent être rassemblées dans le même lieu. Est-ce que cela peut être pris en compte culturellement, cultuellement, et que cela peut être respecté, selon vous, par les habitants du quartier, parce que ça peut être un peu compliqué?
c'est très compliqué. Moi, je prends le cas des élèves qu'on suit. Alors, ça, c'est une autre casquette dans le cadre du collectif des musulmans. Ben, nous, ça pose un problème directement de disponibilité au niveau des salles de cours. Donc, on donne des cours d'enseignement d'arabe et on se retrouve bloqué parce qu'on avait initialement des élèves qui étaient des groupes d'élèves, pardon, qui étaient au nombre de 15. Et là, on se retrouve, si on doit respecter les règles, et c'est ce qu'on va faire, à devoir décloisonner et à essayer de trouver des endroits où on peut éventuellement donner ces cours. Donc c'est très compliqué au jour le jour, mais après on s'y astreint. Hein.
Oui, alors Safia ?
Alors nous, nous concernant, bon, c'est vrai que nous, on est en veille sociale, on est essentiellement dans la rue, donc le problème se pose moins vis-à-vis de notre travail. Maintenant, culturellement parlant, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué lors d'une précédente émission de radio, où lorsque certaines cultures où ils ont l'habitude de vivre régulièrement en famille, en se visitant les uns les autres, ça risque d'être compliqué. Mais en même temps, effectivement, il y a des règles sanitaires à observer. Il est important, pour protéger les plus faibles, de limiter le nombre de visiteurs.
Déjà, pour une majorité de population, parmi les caractéristiques, c'est surtout des familles qui peuvent être monoparentales, des familles qui peuvent être nombreuses, donc aussi. Alors, comment faire respecter tout cela? Comment intervenir dans ces familles, comme vous avez l'habitude de faire, pour leur rappeler aussi si ces consignes sanitaires? Est-ce que le message est entendu et peut être véhiculé? Et mais la barrière de la langue est importante et que de temps en temps, ce sont les plus grands, les aînés, qui traduisent aussi en langue vernaculaire aussi les informations de cet ordre-là à leurs parents.
Mais tout à l'heure, on parlait des messages de prévention et de sensibilisation à mener et à développer. Je pense qu'il y a une itérativité des messages à transmettre aujourd'hui par tous les moyens et par l'ensemble des acteurs de proximité. Donc ça passe par plein de canaux, l'école, les collèges, les associations de proximité, nos médiateurs avec Safia qui sont en pied d'immeuble et en contact avec les habitants. Donc c'est des messages itératifs de prévention et de sensibilisation à marteler avec Yazid, on en parlait tout à l'heure sur mettre en place des actions avec des outils ludiques qui parlent aux gens et qui permettent de mieux faire comprendre la problématique et les risques. Donc je pense que ça passe par, essentiellement une partie passe par ces messages-là qui sont à développer.
Eh bien, merci. Nous arrivons au terme de l'émission, hein, les échos. Donc je vais vous laisser le mot de la fin, que ça nous allons démarrer par Gerson. Alors, y aurait-il quelque chose avec un numéro de téléphone éventuellement lorsqu'il y a des situations de détresse? Parce que, le mail, une copropriété est dégradée, de plus en plus en difficulté, et que cela n'est pas simple aussi de pouvoir intervenir dans une telle copropriété.
Alors, nous, on a un binôme de médiateurs qui est présent en continu sur le secteur du mail. Donc, les médiateurs sont identifiés puisqu'ils sont en tenue de travail, donc les habitants je pense les voient régulièrement. Le Maï, c'est un petit territoire à côté de Picouan, Busserine, Fond Vert, etc. On n'a pas de numéro de téléphone régulièrement. Le Maï, c'est un petit territoire à côté de Picouan, Busserine, Fond Vert, etc. On n'a pas de numéro de téléphone spécifique, mais en tout cas le contact, le lien se fait en pied d'immeuble, aux sorties d'école.
Merci Gerson. Alors, Safia ?
Alors, pour aller vite, ça va être. Je ne vais pas être redondant sur ce que vient de dire Gerson. Là, nous aussi, nous avons les tenues, pied d'immeuble, sortie d'école, on est aussi reconnaissable, mais sur nos territoires qui sont Picon, Busserine, Saint-Barthélemy 3 et Fond Vert. Et bien entendu, les habitants comme les partenaires peuvent nous solliciter à tout moment.
Merci Safia. Alors, Yazid ?
Je vais être redondant.
Je t'en prie.
La même chose. Oui. Non, très concrètement, nous, on est essentiellement sur la maison régionale de Santé du passé.
Oui, d'accord.
Il y a le laboratoire avec lequel on collabore. Donc, si les gens ont des difficultés, ils peuvent facilement aller là-bas. Il faut savoir que c'est sans rendez-vous. Donc, ça, c'est important de faire diffuser cette information. Le matin, actuellement, de 8h jusqu'à 11h, vous pouvez aller vous faire dépister sans rendez-vous à la maison régionale de Santé de Malpassé. Et les résultats, on les reçoit assez rapidement, entre 24 et maximum 48 heures.
Eh bien, c'est une excellente information, parce qu'il y a certains parents qui doivent voyager pour X raisons, qui doivent aller au pays, et avec des tests qu'il faut absolument présenter de 72 heures, c'est un peu compliqué pour certains d'avoir un retour de cet ordre-là assez rapide. Donc, y a-t-il un numéro de téléphone du centre médical de Malpassé ou autre, ou on va sur Internet?
Sur Internet, parce que je ne l'ai pas en tête, mais oui. Grosso modo, c'est 13 rue Raymond Martin, 13013 Marseille, 13 rue Raymond Martin, 13013 Marseille.
Merci beaucoup, nous vous remercions d'être venu. Juste une très très courte pause musicale, et puis nous allons passer rapidement au communiqué. Merci, merci Sidi.
Merci à vous.
Et nous vous remercions d'être
merci
venu,
beaucoup, hein.
De nous accorder du temps.
Merci. Au revoir.
Allez, au revoir.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça taille de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va. Tout s'en va, l'autre en qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on y vendu son âme, pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps.
Ah. Et oui, dernière partie avec les communiqués. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu une marche des sans-papiers hein, qui est partie de Marseille récemment, qui traversera de nombreuses villes de France et convergera vers Paris pour y arriver vers le 17 octobre 2020. Ils demandent à ce que leur situation puisse être véritablement vue et revue avec une possibilité d'accéder à la reconnaissance de leurs droits. Donc c'est quelque chose qui est important et qui me semblait absolument indispensable de vous communiquer. C'est à l'instar de la marche de 83 pour la marche pour l'égalité hein, qui a été improprement qualifiée de marche des beurs alors que c'était une marche pour l'égalité des droits. Donc il faut que nous puissions suivre cette actualité. Au MICEM J4, il y a l'Orient Sonore, musique oubliée, musique vivante, du 22 juillet 2020 au 4 janvier 2021. Donc c'est l'Orient Sonore, c'est sur toutes les musiques de l'Orient. Donc c'est à voir et surtout à écouter avec des vieux disques. Hein. Donc il y a tout ça à voir. Il y a le théâtre, ex-théâtre du Merlan, qui s'appelle le ZEF aujourd'hui, qui devrait reprendre ses activités à partir du 25 septembre, c'est-à-dire demain. C'est une soirée en deux parties, à 18h30, entrée libre, et à 20h30, ça se passe au ZEF Jardin de la Gare Franche et au ZEF Usine de la Gare Franche. Puis après, la question, c'est à savoir, est-ce que cela pourra se dérouler au regard des nouvelles consignes? De toute façon, vous pouvez appeler le ZEF au 04 91 11 19 20 pour avoir un peu plus d'informations sur le déroulement de cette reprise qui peut être compromise forcément. Oui,
oui, toujours dans... Oui. Toujours dans le cadre de la communication. Sheba qui m'a laissé éventuellement de leur communiquer un petit peu un projet qui s'appelle Commission éducative coordonnée par Sheba, hein, qui débute le 29 septembre 2020 par des enfants du CP jusqu'à CM1, des groupes de 6 enfants, une structure d'accueil par les partenaires, maximum 6 enfants, en partenariat avec le comité Maméga, Athletic Sport Busserine, Rapid Box, ALCV Saint-Barthélemy 3, ACE, Femmes, Familles, Fonds Vert. Voilà. Activités éducatives, culturelles et des accompagnements à la solidarité réalisés par des enseignants, il ne faut pas oublier, qui font partie d'une association qui s'appelle Cours Galilée. Voilà. Qui vont être là présents à partir de la semaine prochaine. Jean-Marc ?
Ok, sinon, il me semble que l'ensemble des activités au niveau des centres sociaux ont repris, hein, malgré peut-être quelques difficultés d'inscription, que ce soit au centre social Agora, donc vous pouvez vous informer en vous rapprochant du centre social Agora, le centre social Flamand Iris aussi, hein, s'ils ont repris un peu leurs activités progressivement. Puis après, il y a aussi la MFA avec les différentes activités et inscriptions qui sont possibles. Puis après, bon, il faut que nous, que tout comme tout un chacun, toute structure, compte tenu de la recrudescence du virus, là, savoir un peu qu'est-ce qui sera maintenu, qu'est-ce qui sera aussi, bon, tant pour les salariés, surtout pour le public accueilli, donc beaucoup de vigilance.
C'est bien que tu le dises parce que je donne le numéro au téléphone, du centre social Flamand Iris, 04 91 21 83 78, c'est au centre social Flamand Iris, et au centre social Agora, c'est au 04 91 02 37 31, et éventuellement à la maison des familles aussi, il ne faut pas les oublier, c'est 42 partenaires, au 04 91 02 35 75. Pour continuer, Jean-Marc, juste pour finir, des activités aussi éducatives et culturelles, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ses profs. Il y aura des ateliers numériques proposés par avec nous, l'association Fab Lab qui est au Flamand. Il y a aussi des pauses ateliers intenses et pour, voilà, et, autour de l'épidémie, tout ça. Voilà. Il y aura des ateliers en partenariat aussi avec la DAP. Voilà. Éventuellement, contactez Rania, voilà, au centre social Agora, qui vous donnera plus d'informations. Voilà, je reformule le numéro de téléphone de 04 91 02 37 31.
Donc, dernière chose, c'est pour vous informer que malgré le fait que les échos du Grand Saint-Barthélemy ne soient pas financés, nous nous faisons un point d'honneur au sein du comité Maméga de poursuivre cette action jusqu'à la fin de l'année, puis après, advienne que pourra pour l'année prochaine. Galère sur 88.4 en direct du local du comité Maméga. Allez, et merci. Allez, merci. Au revoir, merci Sidi.